Bonjour, bienvenue dans notre émission Dépendance Info ou Intox. Cette émission vous a été préparée par Julien, Salah, Sébastien et Sarah, tous étudiants. Cette émission traite de la dépendance chez les jeunes. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat entre Radio Panique, Info Jeune et Itinéraire Amo. Cette émission est aussi subventionnée par la communauté française. La dépendance chez les jeunes étant un fait d'actualité, nous avons souhaité nous pencher sur ce sujet. En effet, au cours de ces dernières années, le phénomène a pris une ampleur de plus en plus importante. Par ailleurs, il existe énormément d'idées reçues sur la question. Nous avons donc souhaité en faire un tri. Le début de ces émissions n'est évidemment pas de porter des jugements sur les personnes dépendantes ou mener un discours moralisateur. Bien que le thème central de ces émissions soit les dépendances, nous avons choisi de l'aborder à travers des angles différents. Au cours de la première émission, nous avions souhaité nous pencher essentiellement sur le phénomène dans sa globalité et ses différents aspects, afin de poser un cadre et de tenter de trouver une définition commune. La prochaine émission visera à répondre aux questions liées aux dépendances d'alcool et de drogue. L'émission d'aujourd'hui abordera ce que nous pourrions définir comme étant les nouvelles dépendances, telles que les cyberdépendances, les jeux d'argent ou de hasard. Pour traiter de ce sujet, nous accueillons ce jour Marc Reupening, qui est psychothérapeute et responsable du groupe de parole au Pélican.
Au cours de la première émission, nous avons eu l'occasion de rencontrer Juliette Villet, qui a pu nous présenter votre institution et le travail qu'elle y fait. Pouvons-nous nous demander également de vous présenter et de présenter votre institution, son histoire et son actualité?
Bonjour, je suis ravi d'être dans votre émission. Je suis psychothérapeute rogérien depuis maintenant une dizaine d'années. Au niveau du service, je m'occupe de l'accompagnement psychologique, tant en individuel, comme vous l'avez dit, avec l'entourage aussi. La SBL existe maintenant depuis à peu près une trentaine d'années, où la vision d'accompagnement a toujours été de croire que la personne a tout le potentiel en elle pour s'en sortir, et donc notre rôle est de pouvoir l'aider en cela. Notre service a une particularité, c'est qu'il est financé par la communauté française, donc la COCOF, et nous sommes actuellement le seul service reconnu comme expert en matière de jeu.
La première émission nous a également permis de nous pencher sur la définition des dépendances en général. Selon vous, peut-on aujourd'hui comparer les cyberdépendances aux addictions comme l'alcool ou la drogue? Et voici un témoignage qui sera commenté par notre invité.
Selon vous, peut-on aujourd'hui comparer la cyberdépendance aux addictions comme l'alcool ou la drogue?
Oui, bien sûr, on peut la comparer dès qu'on est dépendant à quelque chose, que ce soit la drogue, la cyberdépendance ou l'alcool. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en passer, donc forcément on peut la comparer à une addiction, oui.
Okay. Bien sûr, on ne peut pas tout à fait les comparer parce que l'alcool et la cigarette ou les autres drogues sont nocifs pour le corps, tandis que l'informatique c'est nuisible uniquement pour l'intelligence.
La cyberdépendance pour moi, ce serait une situation grave, où quelqu'un serait tellement accroché à des usages des nouvelles technologies, et en l'occurrence ici l'Internet, que ça perturberait non seulement sa propre vie, mais aussi son entourage, et qu'on ait lieu de devoir s'en inquiéter.
Ce serait le fait d'être de plus en plus souvent sur Internet, d'avoir besoin d'aller de plus en plus souvent sur Internet, de sentir un malaise quand on n'est pas sur Internet. Et alors, ce qui est très important pour définir la cyberdépendance, c'est le fait que le jeune va de plus en plus se focaliser uniquement sur Internet. Donc, ses activités autres qu'Internet vont fortement se réduire et Internet deviendra très exclusif. Donc, il y aura beaucoup moins d'autres activités, il va moins voir ses amis, il se consacrera moins aussi à ses activités extrascolaires, il verra moins sa famille, il va se renfermer petit à petit et se concentrer uniquement sur l'ordinateur, sur Internet, sur ses réseaux, sur ses jeux, etc.
Oui, donc on peut effectivement dire qu'il y a une comparaison, tout à fait, dans le comportement, donc c'est-à-dire qu'il y a une répétition régulière et un besoin irrépressible de le reproduire. En fait, c'est l'Internet qui permet aux cyberdépendants d'éprouver du plaisir. Alors, l'ordinateur, l'Internet peut être perçu comme étant la substance elle-même. la relation de dépendance se fixe sur le net aussi bien que le sujet recherché par la cyberdépendance. Ça veut dire quoi? Que grâce à Internet, je vais pouvoir trouver encore plus.
Et en matière de cyberdépendance, à quel moment peut-on parler de dépendance nocive et de simple consommation? Et encore, voici encore un autre témoignage qui sera commenté par après par notre invité.
En matière de cyberdépendance, à quel moment parle-t-on de dépendance et de plus simple consommation?
Bien, on en parle à partir du moment où une personne, dès qu'elle rentre chez elle à la maison, la première chose à laquelle elle pense, c'est allumer son ordinateur et de ne pas commencer à faire, par exemple, ses tâches ménagères et qui est motivée pour uniquement aller sur le PC.
Ben, à partir du moment où la cyberdépendance dicte nos vies, c'est-à-dire que si maintenant, si on a des devoirs à faire, faire le ménage, ou des trucs comme ça, ou on a une vie de famille, qu'on consacre essentiellement son temps au PC et plus à sa vie de famille et à ses devoirs, là je crois que là on peut parler de cyberdépendance. Après, il reste, si on passe 2 heures par jour ou 1 heure et qu'on arrive à assumer sa vie, à assumer ses devoirs et continuer à vivre sereinement sans que le PC soit un obstacle à la famille et à nos devoirs, là je pense que là il y a une cyberdépendance au moment où le PC dicte notre vie.
Alors, la norme fixée actuelle pour considérer un internaute comme étant à cyberdépendance représente une utilisation en moyenne entre 35 et 40 heures hebdomadaires. Alors, il faut le prendre dans un contexte de loisirs et non pas dans un contexte scolaire pour les jeunes et de travail pour les personnes qui travaillent. On constate, comme on l'a entendu dans le témoignage, qu'il y a des dérives et donc, in fine, ça peut provoquer de l'isolement.
Merci. Maintenant, nous allons enchaîner avec une pause musicale. Tu Facebook de Bel Air.
T'es dans les friends de ma cousine, sur cette photo t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Comme toutes les meufs, tu prends photo devant la glace. La bouche en cœur, le décolleté aurait trop la classe. T'as oublié dans tes amis. J'espère que t'es pas fan de Johnny. T'as l'air OP, tous les mecs t'ont laissé les postes. T'es dans le groupe, j'écoute les cons, puis l'hôtel Cost. Ce soir c'est Bifor, une marbeuf, tu participes à l'événement. C'est gratuit seulement pour les meufs, mais promis tu m'attends devant.
Salut, c'est moi, Elodie. Ah, ça me fait trop plaisir que tu sois venue.
T'étais du genre modèle élite sur tes photos. Mais là j'avoue, tu ressembles plus à Arlette Chabot. Le matin dans ton lit, tu Facebook. Sur ton iPhone, ton Blackberry, tu Facebook. Tu sors d'after, il est midi, tu Facebook. Nouvelle Nike, New York City, t'as claude les photos, ouais, tu Facebook. Le matin dans ton lit, tu Facebook. Sur ton iPhone, ton Blackberry, tu Facebook. Tu sors d'after, il est midi, tu Facebook. Nouvelle Nike, New York City, t'as claude les photos, ouais, tu Facebook.
DJ Monster est fan de DJ Monster. Ouais, ok. Et vous suggère de devenir fan de DJ Monster.
Sur ton profil, c'est marqué Work at the Studio. Je t'avais promis que j'y toucherais pas, mais je suis dispo. Du coup, j'ai posté sur Twitter que je passe l'après-midi avec ta sœur. J'ai pas marqué ce que je vais lui faire. J'avais 140 caractères. Pareil que tu bosses avec Angoule. Que votre morceau is coming soon. Ça fait 6 mois que tu l'as écrit dans ton statut. J'ai pas cliqué jamais depuis, tu me parles plus. Ton meilleur pote c'est du graphiste, il a le crack des logiciels. Il va gommer tous les touristes du shooting sous la tour Eiffel.
S'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, excuse-moi. S'il te plaît, Jean, prends l'appareil photo. Jean, on peut faire une photo s'il te plaît?
Dans ton album, y'a cette photo avec Jean Rock. Toi t'es derrière, coupé tes flous, mais tu t'en moques. Le matin dans ton lit, tu Facebook. Sur ton iPhone, ton Blackberry, tu Facebook. Tu sors d'after, il est midi, tu Facebook. Nouvelle Nike, New York City, t'upload les photos, ouais tu Facebook. Le matin dans ton lit, tu Facebook. Sur ton iPhone, ton Blackberry, tu Facebook. Tu sors
Vapeur, il est midi. Sur Facebook, nouvelle Nike, New York City. Upload les photos, ouais, sur Facebook.
Certains médias qualifient ce type de dépendance des temps modernes. Pensez-vous que ce terme soit adapté ? Avec tout de suite un témoignage.
Certains médias qualifient ce type de dépendance des temps modernes. Pensez-vous que ce terme soit adapté ?
Oui, il est tout à fait adapté parce que bon, il y a 20 ans, où, l'informatique n'existait pas. Enfin, elle était beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est une dépendance qu'on rencontre essentiellement aujourd'hui, puisque avant nos grands-pères ou nos parents étaient beaucoup moins confrontés à ce genre d'addiction. L'alcool, la drogue, enfin, tout ça, était plus de leur temps. Et aujourd'hui, on trouve une nouvelle dépendance, c'est la dépendance au PC. Et donc on peut la qualifier de temps moderne.
Ce terme, il est très bien adapté, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'informatique. Et les gens s'occupaient plus à aller en discothèque ou quoi d'autre.
Oui. Alors, les jeunes sont en avance sur la pratique d'Internet et surtout sur celle des jeux en réseau. Et il faut rappeler aussi que cette pratique en soi est positive et potentiellement utile. C'est l'abus et la dépendance qui posent un problème. On le voit à l'époque lorsque le cinéma sort. Le cinéma muet devient parlant. On voit à l'époque les croyances qui étaient de dire les jeunes vont être influencés de façon négative. Eh bien, cette nouveauté, on la retrouve aussi dans Internet, mais ce n'est pas pour autant que c'est un problème.
Et avec toute cette évolution technologique qui nous pousse à avoir Internet un peu partout, sur nos téléphones, sur nos iPhones et tout, est-ce que ça peut créer une plus forte dépendance, le fait d'accéder à Facebook, Internet à tout moment, à tout instant?
Oui, c'est la grande accessibilité qui ouvre la marche du possible de la dépendance. Donc, le fait d'avoir facilement accès en permanence peut favoriser la dépendance plus facilement.
Les jeunes sont-ils plus touchés par ce type de dépendance, avec un micro-trottoir?
Les jeunes sont-ils plus touchés par ce type de dépendance?
Ben oui, parce que la plupart des jeunes sont maintenant motivés par Facebook et MSN pour les rencontres et pour les jeux vidéo surtout. Parce que je vois mal une personne âgée se mettre sur un ordinateur et rester jouer pendant des heures.
Ben je pense que oui, puisqu'ils sont nés avec ça. Enfin, les jeunes aujourd'hui, c'est plus une génération numérique. Ils ont vécu avec ça, ils ont grandi avec la télé, avec le PC et tout ça, donc forcément ils sont plus aptes à devenir dépendants, puisque forcément les gens des autres générations ont été beaucoup moins confrontés à ce genre de dépendance. Voilà, donc les jeunes sont beaucoup plus en proie à être dépendants au PC, puisque voilà, ça fait partie de leur génération.
Alors oui, car grâce à Internet, cette passion pour le jeu se trouve amplifiée par le fait qu'on ne joue plus contre l'ordinateur, mais contre d'autres personnes. Alors, il y a la dimension de l'interactivité, le fait que c'est plus imprévisible au niveau du jeu, et celui-ci, quelle que soit l'heure de connexion, donc le jeune, sont plus visés par les jeux pathologiques online.
Pouvez-vous nous parler des actions menées dans les écoles ou auprès des jeunes afin de lutter contre les dépendances ? Avez-vous des outils ou méthodes spécifiques pour vous adresser aux jeunes ? Comment le message est-il perçu ?
Alors, au niveau de notre centre, nous proposons des outils de sensibilisation directement dans les écoles, mais au préalable, nous proposons également des séances de sensibilisation des professionnels, compris là-dedans les professeurs, les médiateurs, les centres PMS qui gravitent autour de l'école, et notamment, prochainement, nous en organisons une le 4 octobre au sein de notre centre. Alors, il y a des expériences aussi qui ont été menées à Charleroi, pas avec notre centre, mais un autre centre en collaboration, qui était justement de proposer des PC à l'extérieur de l'enceinte de l'école et d'inviter les jeunes à pouvoir s'y inscrire et de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'allaient faire les jeunes? Est-ce qu'ils allaient donner le maximum d'informations leur concernant en connaissant rien du tout du site? On s'est rendu compte que 70% des jeunes donnent énormément d'informations sans rien connaître du site qui est en train de lui poser les questions. Alors nous participons aussi avec les médias, hein, notre outil principal aussi est les médias, en l'occurrence en participant comme dans cette émission, mais aussi via la télévision, comme par exemple l'émission des News, où nous avons utilisé le film de la commission des jeux de hasard et d'argent pour rebondir et interagir avec les jeunes, donc les questionner et aussi échanger à ce sujet.
Le genre a-t-il une influence dans ces dépendances ? La dépendance aux jeux vidéo touche en majorité les garçons. Existe-t-il un équivalent chez les filles ? La télé, les séries ?
Alors oui, au niveau du genre, on trouvait majoritairement des jeunes hommes qui est tourné aux alentours de 25 à 30 ans. Actuellement, ce trouble tend à se généraliser au niveau des deux sexes.
Et ça va être appuyé par un témoignage de jeunes.
Le genre a-t-il une influence dans ces dépendances ? La dépendance aux jeunes touche en majorité les garçons. Existe-t-il un équivalent chez les filles ? La télé, les séries ?
Je pense pas, parce que voilà, il y a différents types de dépendance dans la dépendance au PC. C'est-à-dire qu'un, c'est vrai qu'un garçon sera plus en proie à jouer à des jeux vidéo, tout ça, mais bon, voilà, ça c'est... Voilà, mais c'est vrai qu'une fille, par exemple, pourra passer beaucoup de temps sur MSN, sur Facebook, elle pourra passer beaucoup de temps à regarder des séries, et voilà. Et tout ça, c'est... Je pense pas que les garçons et les filles sont moins en proie... Enfin, si, je pense pas que les garçons soient plus en proie à être cyberdépendants. Parce qu'on rencontre beaucoup de filles qui passent beaucoup de journées, beaucoup d'heures sur leur PC, qui ont besoin d'aller sur des sites de rencontres, de regarder leurs séries, et qui passent forcément beaucoup plus de temps, et parfois même mettre une grande place dans leur vie à Facebook, à MSN. Donc je pense pas qu'il y ait de genre pour la cyberdépendance.
Bien sûr que oui. Parce que les filles aussi dépendent du PC. Il y a des filles qui vont plus que des garçons sur les PC, même via les jeux, via les sites de rencontres et les films.
S'il y a un impact sur la dépendance du milieu social et économique, quel est-il ?
Alors, le fait que l'ordinateur se soit démocratisé est devenu un objet abordable et il est incontournable. On retrouve au niveau des milieux scolaires. Dès la maternelle, les enfants sont habitués avec les ordinateurs. Donc on voit que cette fracture qui pouvait avoir lieu précédemment, il y a quelques années, existe de moins en moins. Et donc le risque de dépendance arrive dans tous les milieux socio-économiques.
Et voici de nouveau un témoignage.
Le milieu social et économique a-t-il une influence ?
Bien sûr que non, parce que on peut être aussi riche que pauvre, et on peut tous avoir un ordinateur à la maison, et ça permet de provoquer la dépendance.
Ben, c'est très difficile comme question, parce que c'est vrai que un homme qui sera par exemple au chômage aura beaucoup plus de temps à consacrer au PC et donc peut devenir vraiment cyberdépendant. Seulement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre des gens riches et des gens pauvres en matière de dépendance, de cyberdépendance ? Ça, je ne crois pas. Tout dépend de la personne et tout dépend dans le milieu social où il se trouve.
Est-ce qu'il y a réellement des dangers au niveau de la cyberdépendance ? Alors, je vous propose de nouveau d'écouter un témoignage où des jeunes vont de nouveau nous dire ce qu'ils pensent.
Quels sont les réels dangers de la cyberdépendance ?
La seule chose qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut se mettre sur l'ordinateur et oublier de regarder l'heure de temps en temps. On oublie d'aller au travail, on peut avoir des difficultés de sommeil, ne plus avoir de contact avec des personnes physiques.
Bah, le réel danger, c'est essentiellement social. Enfin, quand on se renferme dans quelque chose, que ce soit la cyberdépendance ou la drogue ou quelques dépendances que ce soit, c'est essentiellement social que ça se passe. Donc le danger, c'est de se renfermer dans un monde, de se renfermer par rapport aux gens, de pas s'ouvrir. Et en même temps, il reste aussi les dangers physiques. Enfin, quand vous restez 10 heures sur un PC, physiquement, c'est pas bon. Donc voilà, les dangers sont multiples. Niveau social, niveau physique, niveau financier aussi, parce que forcément, un cyberdépendant prendra beaucoup de temps à jouer, ou à aller sur des sites de rencontres et à consacrer du temps au PC, mais par contre, il ne va pas aller travailler, ou il va mettre
en avant sa dépendance, c'est-à-dire le PC, etc.
Et vous, Marc, qu'en pensez-vous ?
Le fait qu'une pratique puisse donner lieu à une addiction n'en fait pas quelque chose de mal, mais les socialisations diverses et particulières permises par Internet peuvent aussi paradoxalement devenir des instruments de solitude. Alors on a entendu ces pertes de temps, insomnie, isolement, ce sont tous des aspects multiples, allant même dans des cas extrêmes de mettre en péril sa santé en se nourrissant de manière aléatoire et complètement déséquilibrée. Donc oui, il y a des dangers réels.
On entend régulièrement parler de no-life. Peut-on considérer ce terme comme un synonyme de cyberdépendant ? Quelle est la différence ? Est-ce un état permanent ou juste un passage ? Les jeunes commentent.
On entend régulièrement parler de no-life. Peut-on considérer ce terme comme un synonyme de cyberdépendance ? Quelle est la différence ?
C'est simple. La plus grande différence, c'est qu'un no-life, c'est juste une personne qui est à fond sur les jeux, mais qui pourrait arrêter de jouer pour, par exemple, aller au travail ou quoi que ce soit. Tandis qu'un indépendant a plus difficile d'arrêter l'ordinateur, de l'éteindre. Au pire, il aura même un petit ordinateur portable pour aller au travail.
Oui, alors moi, je pense que la différence entre le no-life et le cyberdépendant, c'est que un no-life va consacrer beaucoup de temps, mais pour un but bien précis. Et là-dessus, enfin voilà, le no-life va être beaucoup plus dépendant un certain temps pour arriver à un certain objectif. Mais le cyberdépendant va vraiment, ça c'est plus dans la longueur, c'est-à-dire qu'il va se laisser aller et s'enfermer dans un monde. Un no-life, souvent, pourra se détacher de la cyberdépendance assez aisément, car voilà, si son objectif atteint ou pas, ou bien il en aura marre, ou bien voilà, mais il va se réinsérer et il va se remettre dans une vie normale. Un cyberdépendant, c'est un réel problème, c'est-à-dire que le cyberdépendant a besoin de ça. Le no-life n'a pas vraiment besoin de ça, mais veut arriver à un objectif concret. Bon, après, il y arrive ou il n'y arrive pas, et bon, le no-life pourra évidemment être beaucoup plus en proie à être cyberdépendant. Mais je pense pas que le no-life réagit beaucoup plus objectivement. C'est vraiment c'est voilà, il fait ça par objectif, et le cyberdépendant fait plus ça pour assouvir son besoin de rester sur son PC.
Et pour vous, Marc, y a-t-il une réelle différence entre no life et cyberdépendant?
Non. Cette expression s'est propagée sur le net, notamment avec l'engouement des joueurs pour le genre MMORPG tel que World of Craft, RuneScape, Dofus ou des Corps. Tel que Guild, par exemple, qui permet l'existence d'un monde qui est à la fois persistant et commun, indépendant de l'assence des joueurs, déconnecté, mais fortement dépendant. La contribution à une guild, à une collectivité. Alors aujourd'hui, beaucoup de nos lives pensent garder une vie sociale, que l'on dit saine. Ils passent le reste de leur temps néanmoins libre sur l'ordinateur, sans que cela n'affecte pour autant, à leurs yeux, leur personnalité et leur vie sociale de manière dangereuse. Pour eux, le jeu est avant tout un loisir, comme on a entendu, et c'est quelque chose par objectif, et puis ça se termine. Mais on constate que quand même, c'est une addiction qui jouerait le rôle d'antidépresseur.
Et c'est un état permanent, juste un passage?
Dans quelle mesure on peut parler d'un passage alors que les personnes retournent régulièrement en no-life? Elles n'arrêtent pas, donc... En cela, ce n'est pas un passage.
Et voici une deuxième pause musicale avec comme titre Un morceau de salade de Kemar.
Posé sur le lit avec deux ou trois amis, je me souviens encore de cet après-midi. On se tapait des kills, on s'est tapé des strips, à faire des parties de PES. Moi je prenais le Milan, quand toi tu prenais Manchester United. On était au Nirvana, en écoutant le vieux disque de Nirvana. C'est ça, fais tourner la Bema, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Fais tourner la Bema, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade.
huitième bédo. Mec, je sais pas si je vais te suivre, je suis un peu haut.
Qu'est-ce que tu me fais comme plan, Bobby? Viens tâter ma putain de weed, mon cannabis.
Y'a pas moyen sérieux. Sur la tête de ma mère, y'a pas moyen sérieux.
Qu'est-ce que tu me fais comme plan, Bobby? Viens tâter ma putain de weed, mon cannabis.
Fais tourner la boma. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Fais tourner la boma. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Après réflexion, j'ai changé d'avis. Juste envie de reprendre un dernier petit split. Toi même tu le sais, après cette soirée, on va se splitter, se splitter. Ça me rappelle l'été dernier, dans notre vie tété. On écoutait tété, on tâtait les tétés. C'était le bon vieux temps. On avait chopé du chanvre d'Afghanistan. Boy, 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 boy. Fais tourner la boma. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Fais tourner la boma. Laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. C'est ça. Fais tourner la beuh et un peu de ta ganja. Sérieux, cousin, vas-y, fais tourner la beuh du ghetto. Toi-même, tu le sais, elle vient de loin, elle vient de Babi, Babi, c'est non. Ça. Ouyé, ouyé, ouyé. C'est ça.
Il existe différentes formes de cyberdépendance. La cyberdépendance dépensière, la cyberdépendance relationnelle, la cyberdépendance et la cybersex-dépendance et le cyberramassage. Pour vous, laquelle rencontre-t-on le plus fréquemment?
Alors, toutes ces cyberdépendances s'équivouent. Et l'explication, c'est que les mécanismes de ces diverses cyberdépendances sont les mêmes. Quelle que soit l'information recherchée, la cyberdépendance, enfin le cyberdépendant cherche à assouvir ses envies et réduire son anxiété, etc. par le net.
Mais donc, on n'en rencontre pas une plus que l'autre?
Non, actuellement non, puisque la recherche est la même.
Nous connaissons tous les effets nocifs de la surconsommation. Pourtant, les jeunes continuent. Qu'est-ce qui, selon vous, est accrocheur dans ces dépendances particulières?
Alors, Internet possède de grands avantages pour permettre l'accomplissement des compulsions. Il y a, d'une part, l'accès 24 heures sur 24, l'anonymat, l'attrait de l'inconnu. Les rencontres peuvent devenir à la fois quotidiennes et multiples, à la fois par jour. L'anonymat, quant à lui, permet de se confier, de parler plus librement sans crainte d'être jugé par les autres.
Et qu'en pensent les interviewés du micro-trottoir?
Nous connaissons tous les effets nocifs de la surconsommation. Pourtant, les jeunes continuent. Qu'est-ce que, selon vous, est accrocheur dans la dépendance particulière?
À cela, ça dépend des différentes personnes. Exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est me retrouver dans des jeux vidéo d'aventure où je me sens dans un autre univers et plus beaucoup de problèmes... De nos jours.
Comme... Bah oui, il continue bien sûr, parce que voilà, y a, sur Internet, sur le PC, il y a des milliers de choses à voir, il y a toujours quelque chose à faire. Et je pense que ça qui est accrocheur, c'est que c'est un monde très très nouveau qui permet beaucoup de choses. Donc les jeunes continuent parce qu'il y a sans cesse des choses à voir et des choses à faire. Et c'est un peu ça le problème, parce que quand on n'a pas de limites, bah, forcément bah, on continue. Et voilà. Mais oui, c'est pour ça que les jeunes continuent, c'est qu'il y a trop de trucs à voir, trop de trucs à faire, et les jeunes sont intéressés par ça, voilà.
Ça permet de rester en contact avec des gens de manière beaucoup plus facile, les voir, et ça coûte moins cher qu'un GSM, donc voilà.
L'Internet est facile d'accès, donc c'est vraiment pas... T'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts juste pour ouvrir ton portable. Et te mettre devant l'internet et voilà, tu fais ça toute la journée. Et ça dépend des gens, il y a des gens qui sont timides, ils ont besoin de ça pour essayer de parler aux gens. Mais c'est quand même vachement facile de tomber dedans et après, tu oublies un peu le monde extérieur quoi.
On évoque souvent le fait qu'un traumatisme est toujours à la base d'une dépendance. Pensez-vous que ce soit le cas?
Alors, Ici, l'addiction, pour nous, quand une personne vient au centre, c'est toujours une rencontre entre sa personnalité, le milieu dans lequel il évolue, et le produit de la consommation. Donc, il peut y avoir une part également de prédisposition, mais il faut dire aussi que c'est complexe et c'est un peu au cas par cas. Néanmoins, on voit que des spécialistes parlent des accros du virtuel comme des personnes souffrant toutes d'une image de soi qui est défaillante.
Une personne ne peut-elle pas devenir dépendante simplement parce qu'elle est plus fragile ?
Oui, il peut y avoir un terrain de prédisposition. Oui. Et l'âge est un des facteurs de fragilité. Donc on le retrouve dans l'évolution personnelle, mais on le retrouve aussi quand la personne est adulte.
Les jeunes reprennent la parole.
On évoque souvent le fait qu'un traumatisme est toujours à la base d'une dépendance. Pensez-vous que ce soit le cas ? Une personne ne peut-elle pas devenir dépendante simplement parce qu'elle est plus fragile ?
Tout cela dépend de son cercle social. Comme par un bête exemple, un élève qui se fait frapper à l'école sûrement se rejettera sur son ordinateur dès qu'il rentre à la maison. Il ne voudra pas en parler à ses parents. Ou il y a des personnes qui ont testé l'ordinateur et petit à petit ont été traumatisés et sont devenus accros au PC.
Donc ça dépend plus à la personne et au milieu social.
Ça dépend de la personne et du cercle social, oui.
Il faut pas faire de généralité, je crois. Ça peut être dû à un traumatisme, mais en même temps, un gars qui s'est intéressé au PC peut petit à petit devenir dépendant, oui. Mais c'est pas forcément dû à un traumatisme, il faut pas faire une généralité là-dessus. C'est vrai qu'un un traumatisme, la question est un peu ambigu, forcément, s'il a eu un traumatisme, il est plus fragile. Je pense pas qu'il faut un traumatisme pour devenir cyberdépendant. Ça peut venir petit à petit, ça peut venir d'un traumatisme. Voilà. Ça vient beaucoup. La fragilité compte beaucoup, certainement, mais je pense pas qu'il faille un traumatisme pour devenir cyberdépendant. On peut vivre très bien comme ça et puis petit à petit devenir cyberdépendant.
Existe-t-il des solutions afin d'aider les jeunes dépendants à s'en sortir ? Existe-t-il des actions prévention, thérapie originale ?
Alors, au niveau des thérapies effectivement originales, auprès des jeunes, on va pas demander à un jeune, tu es avec moi, couche-toi sur le divan, parle-moi de ce qui ne va pas, etc. Il vous envoie balader. Donc c'est clair que, en tant que psychothérapeute, nous avons été amenés à utiliser le support Internet dans l'aide thérapeutique, et notamment au travers des jeux vidéo, pour un petit peu comprendre le monde du jeune et au mieux l'accompagner là-dedans. À côté de cela, il y a aussi, quand il y a un réel problème de dépendance, des formes de thérapie que l'on appelle thérapie comportementaliste et cognitiviste. C'est-à-dire que ce sont des démarches qui vont se baser principalement sur les troubles du comportement. Donc tout à l'heure, on parlait de la répétition et du besoin de le faire à tout prix. Et donc là, on va interagir sur la répétition du comportement.
Est-ce que c'est généralement les jeunes eux-mêmes qui viennent vous trouver ou plus particulièrement les parents ou l'entourage qui s'inquiètent ?
Actuellement, dans notre centre, c'est principalement les parents qui sont affolés, démunis par rapport à la situation. Ils sont en fracture face à leur enfant et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont complètement démunis. Parfois, il arrive aussi que c'est la justice, c'est-à-dire la protection de la jeunesse qui fait appel à nos services parce que les parents sont aussi démunis et la justice est obligée d'intervenir.
Est-il possible de faire un travail positif si le jeune n'est pas demandeur ?
Oui, il est toujours possible de faire un travail positif. À partir du moment où, comme nous le faisons à l'ASBL, nous essayons de comprendre comment se déroule le jeu et qu'est-ce qui est mis en jeu et le problème pour les parents, généralement le jeune embraye. Oui.
Ce type de dépendance demande-t-il également de passer par une phase d'abstinence ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que lorsque nous sommes dans un mécanisme où, pour quelle que soit la raison, nous sommes dans un excès, s'il n'y a pas un temps d'arrêt, comment pouvoir réfléchir à ce qui se passe ? Et donc ce que nous proposons, c'est toujours de programmer à un moment donné un arrêt, quitte à réévaluer par après comment utiliser justement le net.
La publicité joue-t-elle un rôle dans ces formes de dépendance ?
Et voici un petit témoignage.
La publicité joue-t-elle un rôle dans ces formes de dépendance ?
Oui, bien sûr, évidemment.
si on ne voit pas de prime abord, bah forcément on va pas être tenté. Enfin voilà, je veux dire, c'est oui la publicité a de l'importance là-dessus. Comme les publicités de jeux, publicité Facebook, publicité tout ça montre que ce produit existe, donc les gens vont voir et forcément c'est le début à la dépendance. Évidemment. C'est le déclencheur. Voilà, je pense que oui, la pub a une grande importance là-dessus. Oui.
La publicité joue un grand rôle sur ce problème de dépendance, parce que la plupart des jeunes regardent une publicité à la télé, ou ne fût-ce que le dernier modèle d'ordinateur, il va essayer de l'avoir, il va l'acheter et c'est parti.
Oui, alors, tout à fait, la publicité a un impact énorme auprès des jeunes. C'est clair que c'est une publicité qui est une publicité marchande, et donc on va faire croire aux jeunes d'une nécessité qui n'est pas forcément sa réalité. Et donc pour être au top, pour être au in, avoir ce que l'autre n'a pas encore, être le premier dans, et y compris au niveau d'Internet ou le matériel d'Internet. Et donc il y a des publicités qui notamment sont à la rue, c'est-à-dire ces publicités légales, mais il faut aussi préciser qu'il y a ces publicités qui sont illégales. Quand on voit que les jeunes jouent sur Internet, que tout d'un coup, il y a une interférence d'une publicité qui est illégale et qui tout d'un coup propose autant d'argent pour jouer gratuitement sans rien dépenser, c'est une publicité illégale qui influence effectivement le jeune, parce que pourquoi ? C'est inconnu et il va tester.
Et selon vous, les jeux d'hasard et d'argent sont toute une autre problématique selon nous ? Touche-t-elle le même type de public que la cyberdépendance ?
Alors, c'est vrai que pour nous, la problématique d'argent et de hasard est très différente parce que il y a l'argent. C'est un élément supplémentaire. Donc, le type de public, c'est quoi ? C'est un public qui est dans une dimension de perte, d'accord ? Ou qui est dans une dimension où il a besoin d'avoir de l'argent supplémentaire ou qui croit avoir de l'argent supplémentaire. Et donc c'est clair que l'accès à ce type de jeu est réglementé, c'est-à-dire minimum 18 ans, minimum 21 ans, quand ce sont dans les casinos ou les salles de jeu. Donc c'est clair que ça va être un autre style de public.
À quel moment considère-t-on que la dépendance est installée ?
Alors plusieurs signaux. D'abord quand le jeu commence à devenir lassant pour la personne, hein, mais qu'elle ne peut pas s'empêcher. Ensuite, quand l'entourage s'en plaint, c'est-à-dire que lui aussi il s'en lasse de voir la personne tout le temps en train de jouer, même si elle s'en plaint. Ensuite, quand il y a cette impression que le jeu prend la place d'autres activités qui commencent à la personne même à lui manquer, c'est-à-dire elle peut parler de ses loisirs, mais je ne le fais pas parce que je dois absolument continuer à jouer. Alors quand il y a ces signes-là qui sont là, ce sont de grosses alertes. Là, effectivement, il y a un problème.
Certaines personnes demandent à être interdites casino. Pensez-vous que cela puisse être une solution ?
Oui, pour autant que ce soit inscrit dans un processus, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps d'arrêt, mais ensuite d'en faire quelque chose, c'est-à-dire comment on va programmer. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier que les jeux, c'est un plaisir, ça doit le rester. Hein. Donc ça veut dire comment reprendre le contrôle pour ne pas glisser dans l'abus.
Pensez-vous que le fait que certains jeux sont interdits aux moins de 18 ans limite le nombre de jeunes dépendants ?
Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le rôle des parents, mais il y a le rôle de la société qui est aussi de protéger au même titre que les parents. Il est clair que, comme on a dit tout à l'heure, les jeunes ont moins d'expérience, donc est un public plus fragilisé parce que c'est l'inconnu et qu'ils ont envie de tester. Le fait d'interdire des jeux d'argent et de hasard, notamment, ben, va permettre aussi d'éviter les risques. Hein. Et donc, en cela, c'est une bonne chose.
Selon une enquête récente, 15% des jeunes de 10 à 17 ans jouent pour de l'argent et sont de plus en plus accros. Pensez-vous que les jeunes sont effectivement plus accros à ce type de jeu ?
Alors, cette étude de 15% de jeunes a été menée auprès de 2700 élèves, hein, francophones et néerlandophones, par le CRIOC, primaire et secondaire. Alors, peut-on parler ici de danger potentiel pour autant ? On sait qu'ils ont eu accès, mais est-ce que pour autant il y a eu des problèmes ? Ça, on n'en sait rien.
On constate souvent que les parents et l'entourage sont impuissants face à ces situations et réalisent souvent trop tard lorsque la dépendance est installée. À quel signe faut-il être attentif ? À quel moment considère-t-on qu'il y a un problème ?
Ça dépend. Ça dépend évidemment du temps passé sur le jeu ou sur Internet, mais il n'y a pas de critère fixe. En fait, ça dépend des autres secteurs de la vie. si l'école est mise à mal, si le travail est mis à mal, les amis, les loisirs n'en pâtissent pas, il n'y a pas de problème. On peut toutefois s'interroger, par exemple, au-dessus de 35 heures de pratique hein, du jeu par semaine, le loisir risque de devenir exclusif à ce moment-là.
Et donc quelqu'un qui va régulièrement sur Internet, par jour régulièrement sur Internet, mais disons aller une demi-heure ou une heure par jour, a une certaine dépendance, mais on ne peut pas parler de dépendance nocive.
Voilà. Donc c'est une dépendance que l'on va dire une dépendance saine, c'est-à-dire ça fait partie de son quotidien, hein, tout comme manger, boire, se reposer. C'est une dépendance saine, mais en cela, ce n'est pas un problème. Maintenant, si le jeune sort de là et n'arrête pas d'y penser, ça lui tourne dans la tête, même quand il est au cours, quand il est au loisir, etc. Là, effectivement, c'est un problème.
Et maintenant, notre dernière pause musicale avec Madame la Blanche de Jamel Mektoub.
Personne m'entendait, mes yeux ont brillé. Mais j'avais plus d'amis, où sont passées mes belles années, où on foutait la zizanie. Ma vie est noire, depuis que j'ai rencontré Madame la Blanche. Et si les stades disent vrai, je finirai comme une planche. Avant j'étais beau gosse, balèze, meuf à gogo. Aujourd'hui la balance me signale moins de 55 kilos squelettiques. Les naïfs me croient anorexique. Du stick à la seringue, j'ai tout goûté, mec, c'est dingue. Pour le fric vendu mes fringues, et en soirée je trinque avec ce mec qui se dit mon ami, à qui je donne toutes mes économies. Il est mon dealer, par lui je cherche mon ailleurs, je veux fuir d'ici à la recherche d'un monde meilleur. Aujourd'hui prie mon Seigneur, mon cœur a saigné, mon corps a signé un pacte avec le mal, j'ai peiné dans le haram et j'ai vendu mon âme. Avant j'étais un mec bien, je vous jure, dévoué à l'islam à coup sûr. Aujourd'hui je suis qu'une merde, révolue l'époque où je fume éclair. Un toc sans manque de blanche qui voit la vie en noir du lundi au dimanche et du matin au soir. Ce morceau c'est mec tout featuring le désespoir. Ma destinée bascule avant la fin de l'histoire. Il était une fois un mec heureux, illuminé par le soleil, jusqu'au jour où pluie l'a noyé dans son sommeil. Un rail de coke ou de rabla, on t'avait prévenu. Cette fois tu finiras à plat, mangé dans mon avenue. Une overdose a pris sur pause maintenant. Le film est fini, c'est trop tard. Tu sombreras dans le noir pour la vie. Tu es parti, mon ami, je t'ai perdu de vue et tu as perdu la vie. Un rail de coke ou de rabla, on t'avait prévenu. Cette fois tu finiras à plat, mangé dans mon avenue. Une overdose a pris sur pause maintenant. Le film est fini, c'est trop tard. Tu sombreras dans le noir pour la vie. Tu es parti, mon ami, j'étais perdu de vue et tu as perdu la vie. Ce soir la lune est pleine, la lune est belle, il faut que je m'en mêle plein les peines. J'ai rendez-vous à 10h avec mon dealer. En manque de calme, en manque de maille, à 7h seul un shoot me calme. J'ai fait la fouille du portefeuille à maman, mais il est vide assis sur un banc au coin de ma ruelle. À la conquête des répètes, dévisagé par tous les mecs envers qui j'ai des dettes. J'guette ma première dame, paiera ma cam, ma tête tourne. J'suis en manque, j'y vois flou, sans ma toge je deviens fou. Tout à coup une lueur d'espoir passe devant moi, une dame vêtue de noir épaisse, un mirage. J'ai déjà tourné la page, sac à la rage. C'est lâche, rien à foutre, il fallait que je tâche d'avoir le cash. Pour 10h c'est l'heure des comptes, je me mets à fouiller. Espère tomber sur des billets quand tout à coup mes yeux se mettent à prier. Le monde s'écroule sous mes pieds, j'ai prié, plié cette photo sur laquelle j'ai reconnu la chair de ma chair qui m'était la plus chère. J'ai agressé ma mère, la cam a pourri mon sang, la cam a pourri ma vie. Mais où est passé le temps où j'avais toute ma famille? Mais où est passé le temps où j'avais tous mes amis? Trop lâche pour l'avouer à ma mère, j'en ai trop fait pour faire machine arrière, trop fait pour sauter les barrières. Mon Dieu m'a puni, je croyais que le film était fini. J'ai appuyé sur pause, j'ai mis le 16/9 en veille et je suis mort d'une overdose. Je suis mort d'une overdose. Smahli ya Rabbi, smahli ya moui. Un rail de coke ou de rabla, on t'avait prévenu. Cette fois tu finiras à plat, mangé dans mon avenue. Une overdose a pris sur pause maintenant. Le film est fini, c'est trop tard. Tu sombreras dans le noir pour la vie. Tu es parti, mon ami, je t'ai perdu de vue et tu as perdu la vie. Un rail de coke ou de rabla, on t'avait prévenu. Cette fois tu finiras à plat, mangé dans mon avenue. Une overdose a pris sur pause maintenant. Le film est fini, c'est trop tard. Tu sombreras dans le noir pour la vie. Tu es parti, mon ami, j'étais perdu de vue et tu as perdu la vie. Un rail de coke ou de rabla, on t'avait prévenu. Cette fois tu finiras à plat, mangé dans mon avenue. Une overdose a pris sur pause maintenant. Le film est fini, c'est trop tard. Tu sombreras dans le noir pour la vie. Tu es parti, mon ami, j'étais perdu de vue et tu as perdu la vie.
Et Voilà, remercie-moi à Marc Kreupening pour sa participation à l'émission.
Merci de vos questions.
Et je souhaite réentendre, si vous souhaitez réentendre cette émission, vous pouvez l'écouter à nouveau sur le site d'InfoJeune, www.infojeune-bxl.be.
C'était un plaisir de participer à votre émission. Maintenant, si les personnes veulent avoir plus d'informations, elles peuvent le faire via notre site www.lepélican-asbl.be. Et je voulais dire aussi, surtout, pas de panique. La cyberdépendance n'est pas un fléau, hein, aussi dramatique et général, en particulier chez les jeunes. Cependant, il y a quand même une vigilance à avoir.
Merci de votre participation, Marc. Au revoir.
Au revoir.
Et remerciements à ceux qui ont préparé cette émission. Et pour rappel, ce programme est subventionné par la communauté française.